Donc la première question, c'est si une poussée passe inaperçue, quel risque y a-t-il? Est-ce que les séquelles seront plus importantes? Là, la question, elle se poserait, effectivement, si on surveille que la clinique, sans surveiller l'IRM, il peut y avoir des lésions qui passent inaperçues, et donc ces lésions, à terme, elles peuvent jouer sur l'aggravation de la maladie. Mais si on surveille bien et la clinique et l'IRM, en faisant des IRM régulièrement, une fois par an et une fois tous les trois ans, selon les recommandations, on peut mettre en évidence du coup, ces poussées qui passeraient inaperçues, et donc adapter les thérapeutiques en fonction, donc en surveillant et la clinique et l'IRM. Il n'y a pas plus de risque de faire une lésion inaperçue que de faire une poussée clinique.
Donc moi, j'ai une question, c'est donc sport sur ordonnance. Où en est-on avec une CEP? Le médecin traitant a-t-il le droit de prescrire du sport? Vers quelle structure? Est-il informé du dispositif? Peut-on le lui demander? Alors, le sport sur ordonnance, c'est quelque chose qui en est vraiment à ses débuts. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'il n'y a pas de prise en charge. Hein, donc, il n'y a pas la sécurité sociale ne rembourse pas le sport sur ordonnance. Donc, les médecins traitants, ils sont de plus en plus au courant que l'activité sportive est à préconiser. Il commence à y avoir des plateformes internet qui se développent, entre autres une plateforme de l'ARS où vous avez, alors ça s'appelle Mon Sport Santé, il me semble. Hein, si vous tapez Mon Sport Santé sur internet. Vous avez la plateforme de l'ARS où vous avez des intervenants qui se sont inscrits pour mettre en valeur leur structure et leur programme d'activité physique. Et donc, en fonction de la maladie chronique qui concerne la personne, vous pouvez aller sur le site de l'ARS. Et ça, c'est vraiment le début du sport sur ordonnance. Hein. Donc, ça ne peut que s'améliorer. Donc les structures, c'est toujours pareil. Il y a des structures qui sont des structures indépendantes, des professionnels, des intervenants en activité physique adaptée qui sont indépendants et qui proposent du sport adapté. Après, il y a des structures comme la nôtre qui sont des structures un petit peu plus formelles avec des programmes d'activité physique. Voilà, donc vous pouvez parler avec votre médecin traitant du sport sur ordonnance. Il ne sera pas toujours au courant. Il n'aura peut-être pas toujours le temps à vous donner pour parler de sport parce que ils sont souvent débordés, les médecins traitants, et c'est des fois un petit peu compliqué. Mais quoi qu'il en soit, que vous ayez une ordonnance ou que vous n'en ayez pas, il ne faut pas attendre de la sécurité sociale une participation. Il y a quelques mutuelles qui commencent à prendre en charge dans les ALD pour un montant défini la pratique du sport. Donc, voilà, on est dans les débuts, mais je pense que les choses vont s'éclaircir et s'améliorer avec le temps.
Juste effectivement, pour compléter, il y a la MGEN, la MAIF et la Mutuelle des sportifs qui proposent des packs. En fait, il faut les solliciter. Ça, c'est aux alentours de 500 € par an.
Pour revenir sur l'idée du sport, de l'indication du sport au niveau du traitement de la CEP, c'est le sport est une indication majeure et c'est un peu la question qui a été posée également au niveau de l'indication de la kinésithérapie au niveau de la CEP. Dès que le diagnostic de sclérose en plaques est posé, il faut prendre rendez-vous avec un kinésithérapeute et qui lui va mettre en place, il va essayer, c'est le mécanicien qui va essayer de faire marcher la voiture le mieux possible, depuis la réparation jusqu'à la prévention, c'est-à-dire où le sport va avoir une place essentielle. Même chez un non-sportif, quel que soit l'âge, on va évidemment développer une activité physique. Ensuite, le sport en lui-même, c'est le patient qui va choisir un peu en fonction de ce qu'il aime. Il ne va surtout pas abandonner le sport qu'il aime et on va probablement l'orienter vers d'autres sports possibles. Ici, on a la chance d'avoir la Grande Bleue à proximité. Il faut en profiter. La natation est une activité essentielle, très importante. Des patients qui vont nous demander conseil au niveau du sport, on va les orienter vers des capacités qu'ils ont. Et à nous autres kinésithérapeutes, le travail va consister à maintenir l'assouplissement articulaire le maximum, on va avoir à résoudre comme problème essentiel des groupes musculaires qui vont avoir tendance à se rétracter contre lesquels nous allons lutter pour les assouplir de façon à faire travailler les muscles les plus faibles. C'est pour ça que la place du kinésithérapeute est très importante. Nous, on va essayer de faire avec ce qu'il y a, avec ce qui marche, c'est-à-dire renforcer le plus faible contre, malheureusement, le groupe musculaire qui est le plus fort et qui semble dominer. Et nous, on va faire le travail contraire de façon à permettre aux patients de marcher, enfin, de marcher, d'avoir marcher le plus longtemps possible. Nous, on a une grille qui s'appelle le DSS, c'est-à-dire qu'à partir de 6, la marche va devenir un peu impossible. Notre travail essentiel avant ce niveau, c'est d'empêcher, de reculer le plus possible l'arrêt de la marche. Et ensuite, bon, on va aussi favoriser l'activité sportive après, lorsqu'il y a une question qui est posée, quand on est condamné à ne pouvoir se déplacer qu'en fauteuil roulant, comment avoir une activité physique? Il faut continuer l'activité physique. Le fauteuil roulant n'empêche pas l'activité physique. Nous avons des patients qui ont des activités physiques impressionnantes en fauteuil roulant. C'est ce que je disais tout à l'heure, lorsqu'on a commencé nos réunions PACACEP, il y a peut-être une quinzaine d'années, il y avait peut-être une trentaine de fauteuils roulants ici. Ben, aujourd'hui, on n'en voit plus. Et on est content, quoi. Je veux dire, commencer une activité. Commencer à considérer dès le diagnostic posé de sclérose en plaques que vous allez avoir à lutter contre l'indiscipline du corps, c'est-à-dire que vous devez avoir une discipline pour lutter contre. Ça va être une discipline d'hygiène de vie, comme on disait tout à l'heure, bon, c'est vrai qu'il va falloir éviter des choses comme le tabac, des choses comme ça. C'est des choses bêtes, mais enfin, c'est élémentaire, ça va être une hygiène de vie alimentaire, etc. Et ça, vous allez retrouver ces conseils auprès de tous les thérapeutes qui sont là, des médecins, des kinés, etc. C'est notre rôle premier. Notre rôle en tant que kiné, ça va être justement de vous faire marcher le plus longtemps possible en attendant que le relais soit pris derrière. On sait qu'il va arriver. Quand on voit le progrès qui a été réalisé en une quinzaine d'années, on se dit, bon, c'est pas loin. Mais il y a cet entretien avec le kiné, etc. Et le kiné va vous apprendre aussi des techniques d'assouplissement, des techniques de relaxation, des choses comme ça. Quand on parlait tout à l'heure de la fatigue, le meilleur moyen le meilleur traitement de la fatigue, c'est le repos. C'est-à-dire que le kiné avec qui vous allez travailler, il va peut-être vous apprendre des techniques de récupération de fatigue par la relaxation, etc., qui vont vous permettre d'aller plus loin. Dire également que faire beaucoup de sport, non, à un moment donné, vous allez fatiguer et effectivement, on va réveiller une inflammation et le kiné va être là pour vous faire la balance entre les deux. L'année dernière, on avait accueilli à Marseille un monsieur qui s'appelle Géraud Payot, qui a créé l'aventure Ustive, qui nous a donné une leçon de rééducation, etc. Nous, on est allé l'accueillir sur le port de Marseille. Il venait de faire simplement, en 2-3 mois, il a relié Paris-Marseille par les canaux. Nous, on était humbles quand on l'a accueilli parce que, chapeau. Mais il nous a expliqué comment il faisait sa rééducation. Il nous disait, je suis ralenti par ma maladie, ce qui fait que le matin, je me lève à 4-5 heures du matin, je commence à me préparer. Je sais que je vais en avoir pour 2-3 heures de préparation, mais je vais faire ma méditation, mon yoga, mes étirements. Et ça, les étirements, il les a appris pas avec son kiné, mais c'est lui qui les fait, c'est pas nous qui le faisons à sa place. Lui, il a mis en place une discipline, et après, il nous montre comment il s'en sert. Et le slogan d'Aventure Ustive, c'est au lieu de ramer contre la sclérose en plaques, je préfère pagailler avec. Voilà la leçon qu'il nous a donnée, voilà peut-être la réponse au sport et à la sclérose en plaques. Nous autres, sans être atteints de sclérose en plaques, nous aussi, si on ne fait pas de sport, on vieillit et on est beaucoup moins rapide qu'avant. Donc, continuez le sport, et continuez l'hygiène de vie. Et voilà la réponse un peu à la question.
Merci beaucoup. Mesdames les spécialistes du droit du travail, s'il vous plaît.
C'est pas nécessairement le droit du travail.
Non, là, c'est pas du droit du travail. C'est a-t-on l'obligation d'informer la compagnie d'assurance automobile de cette pathologie ? Non, on n'a pas l'obligation de l'informer, hormis, il est bon de l'informer lorsqu'on a aménagé son véhicule. Parce qu'en cas d'accident, les aménagements ne seront pris en compte et en charge que dès lors que ça aura été signalé. Voilà. Sinon, pas d'obligation. Mais par contre, ce qu'il faut avoir, c'est l'autorisation de conduite et le permis aménagé. Ça, il faut l'avoir. On le garde par-devers soi dans l'hypothèse où un accident aurait lieu et où, à ce moment-là, la compagnie d'assurance adverse se poserait des questions. Voilà, on a le permis, on n'en parle pas à sa compagnie d'assurance, hormis le cas où il y a un aménagement du véhicule.
Alors, je continue avec une question qui est aussi un constat. La MDPH connaît-elle la maladie ? Délai de réponse beaucoup trop long ? Réponse sans explication ou pas de réponse ? Donc, comme on l'a pu aussi l'envisager, effectivement, c'est un peu le parcours du combattant. Hein. C'est des démarches administratives en parallèle de tout ce qui est lié, bien sûr, à la rééducation, à la prise en charge thérapeutique. Donc, effectivement, la MDPH certainement connaît cette pathologie. On indiquait qu'à chaque situation, des besoins et des compensations différentes. Donc, effectivement, il faut essayer vraiment d'être au plus juste quand on établit le dossier avec vous, éventuellement votre entourage qui peut vous donner aussi peut-être un peu de recul sur les activités que vous arrivez à faire ou pas. Et bien sûr, les professionnels médicaux, paramédicaux, donc médecins traitants, médecins neuro, rééducateurs, éventuellement ophtalmo, urologues, tous les médecins qui peuvent participer. On a aussi les kinés, les orthophonistes. Il ne faut pas hésiter à un moment, quand on a ce dossier, ces démarches-là à faire, à les solliciter pour avoir le plus d'éléments possible. Sachant que la MDPH, la plupart du temps, les personnes qui vont prendre les décisions ne vont pas vous recevoir, à moins que vous le demandiez expressément. Ça, c'est possible. Mais effectivement, il faut qu'on ait la photo la plus panoramique possible, on va dire, de votre situation dans ces éléments-là. Pour ce qui est des délais de réponse, ça varie effectivement en fonction des départements. On est plus de l'ordre de 4 à 6 mois, voire plus 6 mois pour tout ce qui est notamment prestations de compensation, voire plus pour certains que j'ai aussi en face de moi. Quand on mêle aussi certains retards d'envoi, des erreurs de communication, effectivement, ça peut reporter les décisions et du coup l'accès aux droits, l'accès aux compensations, l'accès à un revenu. Donc il y a toujours la possibilité, après je m'arrête, de solliciter une procédure simplifiée pour soit des renouvellements alors que la situation n'a pas changé, soit des besoins de prise de décision en urgence. Personne qui serait en établissement, par exemple, et qui aurait à sortir, ou une aggravation majeure des incapacités.
Y a-t-il des questions de neuropsychologie ? Oui ? Non ? Bah, faites-en une, alors. juste une question générale, mais c'est une question de terminologie. Pourquoi parlez-vous de chimiothérapie pour la sclérose en plaques ? La SEP est-elle donc assimilée à présent à un cancer ? Ou est-ce le traitement de la greffe qui amène le cancer ? D'abord, juste une mise au point. Chimiothérapie veut dire traitement médicamenteux. Point. Ça n'a jamais voulu dire traitement anticancéreux. On dit chimiothérapie anticancéreuse. Donc quand on dit chimiothérapie, c'est une prise de doliprane le matin, par exemple. Hein. Stricto sensu. Donc c'est pas du tout ce qu'on a dit. On a dit que, enfin en tout cas j'ai dit pour ce qui me concernait, que lors de la greffe on faisait une chimiothérapie de type anticancéreux lourde pour nettoyer tout le système immunitaire, d'accord. Mais cette chimiothérapie n'amène pas non plus le cancer ni la greffe. Mais il faut prendre un peu de recul par rapport à des traitements très lourds qui peuvent déstabiliser le système immunitaire et qui pourraient peut-être être responsable d'une fréquence plus élevée de certains cancers à distance de la greffe, soit lié à la chimiothérapie, soit lié aux conséquences, entre guillemets, de la chimiothérapie. Donc gardez en tête que chimiothérapie, ça veut dire traitement médicamenteux. et pas traitement anticancéreux.
Là, il y a une question sur le don du sang. Étant atteinte de sclérose en plaques, puis-je donner mon sang ? Alors, effectivement, les maladies auto-immunes et dont la sclérose en plaques sont, a priori, une contre-indication au don du sang. Donc, les raisons, c'est d'une part, ça peut fatiguer des patients qui sont déjà quand même fatigués par la maladie. Et après, c'est une hypothèse, mais qui est très, très polémique, et qu'en donnant le sang, il y a peut-être des cellules de l'immunité qui sont un peu autoréactives et qui pourraient déstabiliser le système immunitaire. Mais bon, il ne faut pas du tout retenir ça. Ce n'est pas une maladie ni contagieuse ni transmissible. Mais bon, c'est le principe de précaution, on va dire, qui prime.
Principe de précaution des organisations qui nous gèrent. CF, les extraits pour l'hormone de croissance. Et ce qui s'est passé après, d'accord ? À partir du moment où les agences donnent un feu vert, ils en prennent la responsabilité. Donc là, c'est un principe de précaution en disant, on ne sait pas, mais on va éviter au cas où, après, on soit mis en examen. Voilà. Autre question générale, est-ce que la chaleur intense peut déclencher une poussée, un bain brûlant, un effort physique intense, une forte contrariété ? Alors la chaleur intense, non, pas au sens d'une poussée, mais elle peut faire, c'était dit tout à l'heure, accentuer certains symptômes qui sont déjà présents. Un bain brûlant aussi. Et un effort physique aussi, puisque c'est la même catégorie, c'est une augmentation de la température externe pour le bain et la chaleur, et interne pour l'activité physique. Une forte contrariété psychologique, c'est compliqué, hein, de démontrer que les facteurs de stress psychologique sont responsables de pousser. Moi, j'aurais tendance à dire oui. Pas au sens où le facteur psychologique est le responsable de la poussée, mais c'est un moment privilégié où le système immunitaire est déjà en train de défendre l'individu, parce que les facteurs de stress agissent aussi sur le système immunitaire. Hein. Et probablement, c'est un moment propice pour qu'il se passe une poussée à ce moment-là. Et quand on discute avec les patients, quand on les connaît bien, très souvent, il y a des facteurs de stress qui sont, entre guillemets, concomitants de la poussée ou qui précèdent juste la poussée. Moi, j'ai un souvenir très, comment dire, prégnant d'un patient qui a fait une poussée assez grave à la mort de son chien, auquel il était très, très très attaché, bien évidemment. Bon, c'est pas la mort du chien qui est responsable de la poussée, mais c'est sûrement un moment très particulier où il était plus fragilisé pour que la poussée n'intervienne à ce moment-là.
Et pour le coup, je prends la parole.
Oui, tiens, je vous ai posé une question. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, non. Je vais pas parler de neuropsychologie, je voulais juste parler de l'aspect psychologique de la maladie et de sa prise en charge, parce que on parle beaucoup des traitements, on parle beaucoup de kiné, on parle beaucoup de rééducation, etc. Et souvent, l'aspect psychologique, il est un peu mis de côté parce qu'on s'occupe beaucoup du reste. Et nous, en tant que psychologue, alors neuropsychologue aussi, mais en tant que psychologue, c'est important de dire que tout cet aspect-là, il faut qu'il soit pris en charge. Il ne faut pas hésiter à aller voir un psychologue, à parler de ses problématiques, à parler de ses difficultés, à parler du stress, à parler des peurs, des angoisses, de tout ce que ça peut déclencher. Et c'est vrai que nous, en rééducation, en tous les cas, on insiste sur ça. Et pour le coup, il y a pas mal de patients, certains donc, que je connais ici, qui volontiers viennent me voir et qui, pour le coup, commencent à parler de leurs difficultés au quotidien, dans la vie, que ça soit dans la sphère professionnelle, sociale, familiale, et qui expliquent un peu toutes leurs difficultés, tout ce qu'ils rencontrent aujourd'hui en lien avec le changement, avec la maladie. Voilà, donc ça, c'est important, parce qu'on n'en parle pas souvent. Après, il y a l'aspect neuropsychologique, bien sûr, et tous les problèmes cognitifs qu'on peut rencontrer. Pareil, c'est important de pouvoir... c'est sûr qu'on fait des bilans neuropsychologiques. Après, ce qui est important, c'est de faire un peu de la rééducation derrière et de travailler toutes ces fonctions-là.
On peut dire que c'est aussi un axe de traitement, la prise en charge psychologique et le renforcement positif.
Absolument.
On a le sentiment... Alors, quand les intervenants, que ce soient médicaux ou paramédicaux, au contact des patients, souvent les connaissent bien. Moi, j'ai le sentiment que les gens qui sont positifs ou dans des périodes de vie positives vont mieux qu'à des moments négatifs et peut-être dans une personnalité plus, entre guillemets, négative sur le fond.
Et c'est vrai que tout à l'heure, lors de la présentation, je parlais de blessures narcissiques. Bon, elle est quasi systématique, hein, puisqu'on a eu une vie avant la maladie. Et après la maladie ou pendant la maladie, bah, l'image de soi, elle est altérée. L'estime de soi, la confiance en soi, puisqu'on se dit, je pourrais peut-être plus faire comme avant ou faire les mêmes choses qu'avant. Donc l'idée en psychologie, c'est aussi de travailler sur ça. Donc,
Tout est bon à prendre.